طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 96 dans l'explication de Kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim Mukhalafat Ashab al-Jahim, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah. Et le livre à la base, c'est le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et c'est un livre qui en fait est un livre unique dans son genre, parce que c'est un livre qui explique un point qui a été qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna, mais qui n'a pas été élaboré ou clarifié en détail par plusieurs. Il n'a pas été élaboré et détaillé par plusieurs ulama, c'est-à-dire que c'est des choses que nos salafs connaissaient et ils savaient, mais que les musulmans, avec le temps, beaucoup de musulmans ont négligé ou ont oublié. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené les preuves au sujet de l'importance pour les musulmans de se distinguer des mushrikines et des kuffars, et des preuves de cela dans le Coran et dans la Sunna et dans l'ijma' et également dans les différentes paroles des salafs. Et quand on parle de se distinguer des mushrikines et des kuffars, c'est pas seulement de se distinguer d'eux dans la façon d'agir, la façon d'être, la façon de s'habiller, la façon de vivre, la façon de penser, mais aussi, bien entendu, fondamentalement, dans les croyances et dans la aqida. Et donc, qu'est-ce qui arrive souvent, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah elle l'a expliqué dans le livre, à plusieurs points, dans plusieurs points, il a clarifié que lorsque les gens commencent à ressembler à d'autres, parmi les gens des différentes croyances et des différentes religions, eh bien, c'est un signe à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils ont un certain respect pour eux. Et le problème, c'est que ce respect peut amener les gens par la suite à développer non seulement un amour pour eux, mais pour leur croyance aussi par la suite, et pour leur religion par la suite. Donc beaucoup de gens, par exemple, ont commencé à les imiter, à imiter les kuffars parmi les juifs et les chrétiens et autres. Et on a vu par la suite que des musulmans commençaient à commettre des formes de péché, des contradictions à l'islam, même dans les questions qui ont un lien direct avec la croyance islamique. Et comme par exemple le fait de célébrer les fêtes des kuffars et des mushrikines, et également le fait d'adorer les saints, d'adorer les tombes, d'adorer les morts et de leur vouer un culte, de faire par exemple des pèlerinages aux tombes des morts. Si ce sont des morts qui ont une réputation comme étant des hommes pieux ou des choses de ce genre, eh bien ils vont vénérer leurs tombes et ils vont les adorer en dehors d'Allah, faire le tawaf autour de ces tombes, leur faire des sacrifices, leur demander des vœux, des choses de ce genre. Donc tout ça, c'est qu'est-ce qui découle du fait de vouloir justement imiter les juifs et les chrétiens. Donc ça peut parfois être précédé par toutes sortes de petites choses qui sont pour certains insignifiantes, des choses insignifiantes, mais qui amènent petit à petit, au fur et à mesure, des musulmans à les imiter dans des choses beaucoup plus graves par la suite. Et donc il ne faut pas prendre ça à la légère. Donc, on a lu jusqu'à maintenant, on a fini le volume 1, on est à presque à la moitié du volume 2. Le cheikh, il explique maintenant les preuves dans l'ijma, les preuves dans le consensus des premiers musulmans au sujet de l'interdiction d'imiter les kuffar et les mushrikines, et il a mentionné comme preuve, pour commencer, en ce qui concerne l'ijma, les conditions que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a établies sur les juifs et les chrétiens lorsqu'il a conquis les régions de la Palestine et de la Syrie. Et donc il a fait une entente de paix avec les juifs et les chrétiens, et il leur a fait signer une entente, et dans cette entente il y avait certaines conditions que les juifs et que les chrétiens devaient respecter lorsqu'ils vivent parmi les musulmans. Et donc en énumérant ces différentes conditions que Omar ibn al-Khattab a établies, ces conditions-là de toute façon sont tirées à la base du Coran et de la Sunna, et il y a le consensus des salafs, des sahaba et de ceux qui les ont suivis sur le fait que ces conditions-là sont établies dans l'islam, que ça fait partie de l'islam. C'est-à-dire qu'il n'y a personne parmi les ulama de l'islam qui a jamais remis en question ces conditions-là. Donc ça fait partie de l'islam. Et ces conditions-là sont basées sur les preuves du Coran et de la Sunna également, et on voit que c'est la chose qui est inversée, comme Cheikh Al-Fawzan il l'explique, et Cheikh Ibn Uthaymeen aussi. Ils ont dit à l'époque Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, quand il a établi les conditions pour les juifs et les chrétiens de la région qui vivaient parmi les musulmans, il leur a donné des règles pour leur interdire de ressembler aux musulmans. Hein? Il leur a mis des règles pour leur interdire de s'habiller comme les musulmans, de ressembler aux musulmans. On voit qu'aujourd'hui c'est le contraire. Au lieu de, c'est-à-dire d'avoir à dire aux non-musulmans, ne vous habillez pas comme nous, n'imitez pas les musulmans, on est obligé maintenant de dire aux musulmans, ne vous habillez pas comme les kuffars, ne les imitez pas dans leur façon de s'habiller, de leur façon de parler, leur façon d'être. On voit que l'affaire a été renversée, d'accord? Et ça fait partie des choses qui se produisent, puisque les musulmans à l'époque sont à notre époque sont dans une situation de faiblesse. Et les hommes, de façon générale, dans la nature humaine, les gens ont tendance à toujours vouloir ressembler aux conquérants et toujours vouloir ressembler à celui qui est fort. Et ils ont en général honte de vouloir appartenir à un parti qui est faible. Sauf que l'islam et les musulmans sont toujours au-dessus de des autres, peu importe qu'ils soient en état de force ou de faiblesse, parce qu'ils sont au-dessus par leur foi, par leur piété. Et donc, ils n'ont pas à imiter ou à ressembler à quiconque parmi les autres peuples qui ont d'autres croyances ou d'autres religions. Et donc, ils n'ont pas à imiter ou à suivre aveuglément quiconque sur terre. Et même si, par exemple, beaucoup de musulmans imitent actuellement les juifs et les chrétiens ou les athées ou autres parmi les différents peuples sur terre, mais n'empêche que les croyants, les gens qui sont sincères dans leur foi, qui sont accrochés au Coran et à la Sunna, peu importe l'état dans lequel les musulmans se trouvent, ils ne vont jamais cesser de s'accrocher fermement aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, « La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq, la yadurruhum man khazalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik. » C'est-à-dire qu'il y aura toujours un groupe de ma umma qui va rester accroché, qui va rester sur la victoire, hein, qui va rester victorieux jusqu'à la fin des temps. Et il a dit dans ce hadith que ceux qui vont les abandonner, hein, ceux qui vont abandonner ce groupe, ou ceux qui vont s'opposer à ce groupe, ne pourront leur faire aucun tort. La yadurruhum man khadalahum, al-khuzlan, c'est le fait de déserter, d'abandonner, de délaisser les musulmans dans les moments de difficulté ou de faiblesse. Donc au lieu de venir en aide et de défendre tes frères alors qu'ils ont besoin de toi, qu'ils sont dans une difficulté, dans une faiblesse, au lieu de rester avec eux et de les défendre et de prendre de rester avec eux, de rester de leur côté, hein, tu les tarzulhum, hein, on les appelle al-mukhadhila, yakhzuluna al-muslimin, c'est-à-dire ils les abandonnent, hein, ils les laissent dans leurs difficultés au moment où les musulmans ont le plus besoin d'eux, hein. Donc la yadurruhum man khadhalahum, donc ceux qui les désertent, hein, qui les délaissent, ne leur feront aucun tort. La yadurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum, de même que ceux qui s'opposent à eux, qui les contredisent sur leur voie. Hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik, donc ils vont rester victorieux jusqu'à ce que l'ordre d'Allah vienne à la fin des temps. Donc ce groupe victorieux dans la Ummah, il va rester présent parmi les musulmans jusqu'à la fin des temps. Donc même s'il y a un grand nombre de musulmans qui suivent les juifs et les chrétiens, il y aura toujours un groupe de musulmans qui va rester accroché à la sunna. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre hadith, il dit, le hadith, il dit, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى وَلَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍ لَدَخَلْتُمُوهُ. قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولُ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. قَالَ فَمَنْ. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que vous allez suivre l'exemple des juifs et des chrétiens pas à pas, au point que si l'un d'entre eux décidait d'entrer dans le trou d'un lézard, eh bien vous le suivriez dedans, hein, vous le suivriez dans ce trou. Et les sahabes ont posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, est-ce que tu parles des juifs et des chrétiens? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, qui d'autre, hein? Donc c'est pour dire qu'il y a, des musulmans qui vont suivre les juifs et les chrétiens et qui vont les imiter et qui vont faire comme eux dans tous les égarements et les bêtises que les juifs et les chrétiens font, et toutes leurs formes d'innovation et de falsification de la religion. Il y en a qui vont les suivre, sauf qu'il y aura toujours un groupe de musulmans qui ne le feront pas et qui vont rester sur la vérité jusqu'à la fin des temps. Et donc c'est ça que le cheikh dans ce livre, il clarifie ce point-là, il explique, hein, ces choses-là. On est arrivé à un point où le cheikh il expliquait donc que parmi les raisons pour lesquelles Omar ibn al-Khattab a établi ces conditions-là, il dit « وَمِنْهَا أَنْ يَعُودَ بِتَرْكِ إِكْرَامِهِمْ وَإِلْزَامِهِمُ الصَّغَارِ الَّذِي شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ تَعْظِيمَ أَعْيَادِهِمْ وَنَحْوِهَا بالموافقة فيها هو نوع من إكرامهم فإنهم يفرحون بذلك ويسرون به كما يغتمون بإهمال أمر دينهم الباطل. Donc le cheikh il explique que parmi les raisons pour lesquelles Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a établi ses principes et ses conditions pour les gens de la dhimma, les juifs et les chrétiens, eh bien, c'est parmi les raisons, c'est parce que, yani, il veut qu'on délaisse le fait de les honorer et qu'on leur impose le fait d'être petit, de se faire petit. Hein? Et ça, c'est mentionné dans le verset 29 dans Surat At-Tawbah. Verset 29 dans Surat At-Tawbah, pour celui qui veut vérifier ça, ça a été légiféré dans ce verset. Après, le cheikh il dit que on connaît le fait que le fait de respecter leur célébration et leurs fêtes et de participer à ces fêtes et d'être d'accord avec ces fêtes, eh bien c'est une forme d'honneur pour eux, parce que lorsque les koufars voient que des musulmans fêtent avec eux dans leurs fêtes et célèbrent leurs fêtes, que ce soit Noël, que ce soit le jour de l'an ou que ce soit n'importe quelle autre de leurs fêtes, que ce soit des fêtes laïques ou des fêtes religieuses, et lorsqu'ils voient des musulmans participer à ces fêtes, ils se réjouissent de ça. Et en même temps, lorsqu'ils voient qu'on ne donne pas d'importance à leurs fêtes et lorsqu'on ne fête pas avec eux, eh bien c'est quelque chose qui les déçoit ou qui les dérange également. Donc ça fait partie de leur fausse croyance et de leur fausse religion. Les fêtes qu'ils célèbrent découlent de leur croyance religieuse. Donc ça, c'est parmi les raisons pour lesquelles les musulmans n'ont pas le droit de participer à ces fêtes-là. Après le cheikh, il dit « والوجه الثاني من دلائل الإجماع » Il dit « أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات متفرقة وقضايا متعددة وانتشرت ولم ينكرها منكر فعن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم قالوا حجت مسمتة فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية فتكلمت فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين قالت من أي المهاجرين؟ قال من قريش قالت من أي قريش؟ قال إنك لسؤول قال أنا أبو بكر قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية قال بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم قالت وما الأئمة قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم قالت بلى قال فهم أولئك على الناس رواه البخاري في صحيحه وأخبر أبو بكر أن الصمت المطلق لا يحل وعقب ذلك بقوله هذا من عمل الجاهلية قاصدا بذلك عيب هذا العمل وذمه وتعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة فدل على أن كونه من عمل الجاهلية وصف يوجب النهي عنه والمنع منه ومعنى قوله من عمل الجاهلية أي إنه مما انفرد به أهل الجاهلية ولم يشرع في الإسلام. Donc le cheikh il explique que une fois maintenant qu'il a expliqué les preuves parmi les preuves de l'ijma, du consensus, il a mentionné l'exemple des conditions de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qu'il a pris avec les gens des juifs et les chrétiens qui vivaient dans les terres de l'islam, et ces conditions là on les retrouve dans les livres de tafsir comme tafsir Ibn Kathir, tafsir al-Tabari, dans l'explication du verset 29, justement dans Surat al-Tawbah, on le retrouve là-bas, et on le retrouve également dans les livres de fiqh des différents madhahib, que ce soit le madhahib al-Hanafi ou al-Shafi'i, al-Hanafi, al-Maliki, al-Shafi'i ou al-Hanbali, vous le trouvez dans le chapitre qui parle des conditions ou des ententes de paix avec les gens de la Dhimma. Ça, vous le retrouvez dans ces chapitres. Donc, c'est quelque chose qui est connu. On les retrouve dans les livres de hadith également. Les livres de tafsir et les livres de fiqh. Le cheikh, il dit, maintenant qu'on a vu ça, maintenant on va voir le deuxième aspect qui est relié à l'ijma'. Et c'est des éléments qui confirment cette règle. C'est-à-dire la règle de l'interdiction d'imiter les kuffars et les mushrikines et les gens de la jahiliya et les juifs et les chrétiens et ainsi de suite. Et cette règle, elle a été ordonnée par de nombreux parmi les sahaba et par les tabi'in à des endroits et à des moments différents et dans des situations et des questions différentes. Et ça, c'est quelque chose qui a été propagé parmi eux et personne d'entre eux n'a condamné ou dénoncé ce genre de choses. Donc tous ont été d'accord sur ce principe. Et le cheikh, il va donner des exemples. Maintenant, il donne un exemple qui est rapporté dans Al-Bukhari. Et c'est rapporté selon Qais ibn Abi Hazim, qui dit que Abu Bakr radiallahu anhu est rentré quelque part. Et il a trouvé une femme qui s'appelle Zainab, une femme de Ahmas qui s'appelle Zainab. Il a vu que cette femme, elle restait silencieuse, elle ne parlait pas. Donc Abu Bakr radiallahu anhu, il a trouvé ça bizarre. Il a dit, pourquoi elle ne parle pas cette femme? Alors ils ont dit, elle a fait l'intention de rester un silence, comme si elle fait le jeûne de la parole. Elle a décidé de rester silencieuse, de ne plus parler. Parce que c'était quelque chose qui se faisait dans la djahiliya. Avant l'islam, les gens ils faisaient un jeûne de la parole, c'est-à-dire ils décident que du matin jusqu'au soir, ils vont pas parler à personne. Hein? Des fois, ils restaient comme ça pendant longtemps. Et même chez les juifs et chez les chrétiens, en particulier chez les chrétiens, je l'ai vu, ils font un vœu de silence. Des fois, tu vois certains prêtres ou certaines religieuses, ils vont faire le vœu de silence, c'est-à-dire que eux, ils ont fait un vœu avec Allah qu'ils n'allaient plus parler à personne. Eh bien, quand Abu Bakr radiallahu anhu, il a vu cette femme faire ce genre de choses, il a dit, parle, parce que ceci n'est pas permis. Ceci fait partie des actes de la djahiliya. Hein? Alors parle. Alors cette femme a demandé, elle a dit, qui es-tu? Il a dit, je suis un homme parmi les muhajirines. Alors elle a dit, de quel parmi les muhajirines? Il a dit, de Quraysh. Alors elle a dit, et de quel Quraysh? Hein? De quelle tribu de Quraysh? De quel clan de Quraysh? Et Abu Bakr, il lui a répondu, il lui a dit, tu poses beaucoup de questions, toi. Il n'a qu'il a Saoul. Saoul, ça veut dire quelqu'un qui pose beaucoup de questions. Il lui dit, je suis parmi les muhajirines. Elle dit, t'es qui, toi? Hein? Elle dit, t'es qui, toi? Elle ne connaît pas Abu Bakr. Elle dit, t'es qui, toi? Elle dit, je suis parmi les muhajirines. Elle dit, quel muhajirine? Parmi les gens de Quraysh. De quel clan de Quraysh? Il dit, toi tu poses beaucoup de questions. Hein? Il a dit, je suis Abu Bakr. Elle a dit, est-ce que cette chose, le fait que nous restions sur cette chose, sur cette affaire, le fait de pas parler, n'est-ce pas que ça c'est une chose qui est bonne, hein, que Allah a ramené après la djahiliya? Il a répondu en disant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, baqa'ukum alayhi mastaqamat lakum a'immatukum. Oui, c'est ça. Donc ici, il dit, le fait que nous restions sur cette chose que Allah nous a ramenée, est-ce que nous allons rester dessus après la djahiliya? Hein, Allah nous a ramené l'islam. Est-ce qu'on va rester sur cette chose, cette bonne chose que Allah nous a ramenée? Et Abu Bakr radiallahu anhu lui a répondu en disant, vous allez rester sur l'islam et sur cette chose, hein, cette bonne chose que Allah nous a ramenée, tant que vos dirigeants vont rester droits. Hein, tant que vos dirigeants vont rester droits. Vos imams, il a dit vos imams, tant que vos imams, en parlant des dirigeants, vont rester droits. Elle a dit, c'est quoi les imams? Mal a'imma. C'est quoi les imams? Il lui a dit, n'est-ce pas que sur ton peuple, il y avait des gens à la tête qui étaient nobles et qui vous ordonnaient et que vous obéissiez? Elle a dit, oui, certes. Alors il lui a dit, alors ce sont ceux-là pour les gens. C'est-à-dire ceux qui sont à la tête des gens et qui sont les nobles et qui sont les respectés et écoutés et obéis. Donc tant que ceux-là sont droits, hein, sur l'islam, eh bien l'islam va continuer. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Et Abu Bakr, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, a dit que Abu Bakr radiallahu anhu, il a considéré que le silence absolu, le fait de ne pas parler du tout, ça c'est quelque chose qui est interdit. Et il a commenté hein, le fait de yani, qu'est-ce que cette femme-là a fait. Il a dit, après avoir mentionné que c'était pas permis, il a dit que ça faisait partie des actes de la jahiliya. Et il a dit ça dans le but de blâmer cette action-là qu'elle faisait, ou cette affaire qu'elle faisait, c'est-à-dire ce silence. Et il dit, وَتَعْقِيبُ الْحُكُمُ, le fait d'avoir commenté le jugement qu'il a mentionné par cette description de la jahiliya, c'est une preuve que la description en elle-même est une cause qui indique la raison de l'interdiction. C'est-à-dire le fait que quelque chose fait partie de la jahiliya, c'est suffisant comme raison pour prouver son interdiction. Il dit donc, ça c'est la preuve que tout acte qui fait partie des actes de la jahiliya, hein, une fois qu'on l'a décrit comme faisant partie des actes de la jahiliya, eh bien ça implique que cette chose-là est interdite et qu'il faut hein, s'en empêcher et s'en abstenir. Et donc ça signifie que lorsqu'il dit ça fait partie des actes de la jahiliya, c'est-à-dire c'est quelque chose que les gens de la jahiliya faisaient en particulier et qui n'a pas été légiféré dans l'islam. Cheikh Al-Fawzan, il va maintenant expliquer cette parole-là. Il dit ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار أي من فوائد الشروط التي وضعها عمر رضي الله عنه على أهل الذمة ترك إكرامهم ومنع إعزازهم وإعظامهم وليس المقصود ظلمهم أو عدم إعطائهم حقوقهم وإنما أن لا نرفع قدرهم وقد أذلهم ووضعهم الله بسبب كفرهم. Donc le cheikh il dit, parmi les raisons pour lesquelles Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a établi ces conditions à propos des gens de la dhimma, hein, ahlul dhimma, les juifs et les chrétiens qui vivent chez les musulmans, c'est dans le but de ne pas les honorer et dans le but de ne pas leur montrer un respect, hein, parce que yani, ce sont des gens qui sont dans le kufr, dans la mécréance. Et il dit, le but c'est pas de leur faire de l'injustice non plus, hein, et c'est pas d'empêcher qu'ils puissent recevoir ce qui leur revient de droit. Non, on n'a pas à leur faire de l'injustice et on n'a pas à leur empêcher de prendre ce qui est de leur droit. Mais ça signifie uniquement qu'on ne doit pas les élever dans leur statut alors que ils ont été humiliés et Allah les a rabaissés à cause de leur mécréance. Après le cheikh il dit لأنه من المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها هو نوع من إكرامهم الذي منعنا منه وموافقتهم تكون إما بالسماح لهم بإقامتها وإظهار شعائرهم وعليكم السلام أو مشاركتهم بها مما يفرح قلوبهم لأن هذا فيه ثناء على دينهم ومدح له وفيه إذلال للإسلام وهم أحرص الناس على إذلاله وعلى إهانته فهؤلاء المتمسلمون الذين يعملون هذه الأعمال إنما يكرمون الكفار وينصرون دينهم من حيث لا يشعرون قد لا يكونون متعمدين أو قد لا يفطنون أو يفطنون قد لا يفطنون ويفعلونه عن جهل وعن غير قصد وإلا لو تعمدوا هذا الشيء لكان الحكم أغلظ لكن مع ذلك لا يعذرون لأن المؤمن يجب أن يسأل عن أمور دينه. Donc le cheikh il dit pourquoi? Parce que on sait très bien que d'honorer, de célébrer leur célébration, ça, ça rentre dans le fait de, d'être d'accord avec eux, soit par, par le fait d'être d'accord avec eux, ou bien dans le fait de les célébrer avec eux, eh bien ça, ça rentre dans une forme d'honneur. Hein, c'est comme si tu les honorais en faisant ça. Et donc, ce qui nous a été interdit, c'est d'être d'accord avec eux dans leurs fêtes et dans leurs célébrations, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens et les athées ou autres parmi les koufas, les hindous et les bouddhistes et les autres religions, quand ils font leurs célébrations et leurs fêtes, hein, eh bien, on n'a pas à participer avec eux. Et s'ils sont dans les pays musulmans, on n'a pas le droit non plus de leur permettre de les faire publiquement, hein, et de, d'exposer et de montrer, hein, ces pratiques-là. Et encore moins de participer avec eux dans ces fêtes. Pourquoi le cheikh dit? Parce que cela rentre, fait rentrer la joie dans leur cœur. Parce que lorsqu'ils voient qu'un musulman fête avec eux dans leur fête, eh bien c'est comme s'ils voient ça comme étant un genre d'éloge que tu leur fais vis-à-vis de leur religion. Hein? Comme si tu leur faisais, tu glorifiais leur religion en fêtant avec eux. Et ça, en agissant ainsi, tu rabaisses l'islam, et tu humilies l'islam, et tu honores leur kufr, hein, et leur mécréance. Donc, tu vois par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, souvent de la part des koufars, surtout les politiciens, quand ils sont à la recherche de différents vote de la part des gens, ils vont faire n'importe quoi pour attirer les gens des différentes religions et des différentes communautés pour les amener à les aimer et à voter pour eux. Et donc tu vois par exemple quelqu'un, peut-être qu'il est chrétien, peut-être qu'il est juif, peut-être qu'il est athée, et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez les juifs, il porte le vêtement des juifs, il va fêter la fête des juifs avec les juifs. Après, il sort, il va chez les bouddhistes, qu'ils soient chinois ou japonais ou autres, et il va fêter la fête chez les japonais ou chez les chinois. Ils fêtent leur fête à eux. Il va porter peut-être même leur habit traditionnel pour la fête. Après, quand il sort, il va dans une autre fête chez les hindous. Il va aller faire même se prosterner devant la statue des mushrikin, hein, et fêter avec eux, faire les mêmes rituels qu'eux. Et là, il veut montrer que c'est pas important la religion, l'important c'est juste il faut s'amuser, il faut, hein. Après, il vient chez les musulmans quand ils font le Eid, et il vient participer avec eux, hein, à la prière de Eid, des choses de ce genre. Après, il va chez les chrétiens. Ça veut dire que quelqu'un qui agit comme ça, ça dit qu'il croit en rien. C'est pas possible que quelqu'un qui a une aqida, une foi, une croyance, et qu'il fasse ce genre de choses-là. Ça, c'est inconcevable, inacceptable. En tout cas, un musulman, il pourrait jamais faire ça. Hein? Si quelqu'un, il est musulman, il peut pas aller se prosterner avec les hindous, aller prier avec les bouddhistes, aller prier avec les chrétiens, aller faire du shirk et du kufr, aller célébrer les fêtes de toutes les différentes croyances et différentes religions qui sont fausses, et participer avec eux dans leur fausseté. Ça, c'est inacceptable. Mais le cheikh, il dit, il y a des gens, malheureusement, qui agissent ainsi. Et il dit, le cheikh, il dit, ces gens-là sont des gens qui veulent le plus rabaisser et humilier l'islam. Donc ces gens-là qui se disent musulmans et qui agissent ainsi et qui font ce genre d'action, eh bien, ils honorent les mushrikines et les kuffars, et ils viennent à la défense et au secours de leur religion. Ils font triompher leur religion sans même s'en apercevoir. Il dit, peut-être qu'ils ne le font pas intentionnellement. Peut-être qu'ils ne réalisent même pas que qu'est-ce qu'ils font, c'est grave. parce qu'ils sont ignorants et parce qu'ils n'ont pas nécessairement l'intention de faire qu'est-ce qu'ils font, c'est-à-dire de faire d'élever la religion des mouchriquines et de rabaisser l'islam. Ils n'ont peut-être pas l'intention de faire ça. Parce que s'ils avaient l'intention de le faire, le jugement serait beaucoup plus sévère. Le cheikh il dit. Mais ils ne sont, malgré tout, ils ne sont pas excusables. Ils ne sont pas excusés non plus. Pourquoi? Parce qu'il est obligatoire aux musulmans de poser la question en ce qui concerne sa religion. Donc si la personne en question, elle est ignorante de l'islam, le devoir pour elle, c'est de poser la question, de demander aux savants de l'islam au sujet de ces questions-là. Et de demander, bien entendu, aux hommes de science qui sont, les hommes de science qui sont reconnus et auxquels les musulmans ont confiance et qui sont sur la sunna. Bien entendu, si tu vas demander à un soufi, il va te dire, oui, c'est pas grave, tu peux prier avec n'importe qui. Oui. Yani, subhanallah. C'est interdit de répondre à cette invitation-là si c'est un collègue de travail ou quelqu'un, par exemple, dans ton milieu de travail ou à l'école ou peu importe. Hein, il t'invite pour ces célébrations-là. Tu dis, bon, moi, je vais juste y aller comme ça pour honorer l'invitation, mais je ne vais pas participer avec lui et ainsi de suite. Ce n'est pas permis de répondre à cette invitation-là. Et même, ça c'est pas seulement pour par rapport à des non-musulmans, même des gens qui se disent musulmans, s'ils t'invitent par exemple dans une célébration qui est innovée, qui fait pas partie de l'islam, tu n'as pas le droit d'y aller. Hein? Donc par exemple, ils pourraient t'inviter, par exemple, il y a des gens qui t'invitent pour un mariage, d'accord? Puis tu arrives dans ce mariage, tu vois qu'il y a de la bière, ou bien qu'il y a de l'alcool, qu'il y a des boissons alcoolisées, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a de la mixité entre les hommes et les femmes. Donc dans ce cas-là, tu n'as pas le droit d'aller. Tu retournes. Tu ne peux pas rester là-bas, tu dis, ah mais ils m'ont invité, je vais honorer l'invitation. Non, tu ne vas pas honorer l'invitation. Dans ce cas-là, ça devient interdit d'honorer cette invitation-là. Donc, si c'est le cas pour des musulmans qui font quelque chose qui n'est pas correct, imaginez si c'est le cas de quelqu'un qui n'est pas musulman, qui vous invite à une fête établie par des mouchriquins et des koufars pour, justement, leur religion ou leur pratique ou leur croyance. Et comme je disais, même si c'est des fêtes qui ne sont pas religieuses, hein, des fêtes laïques ou d'autres fêtes que les gens ont inventées, on n'a pas le droit de participer à ces fêtes-là. Naam. Et le cheikh, il dit ensuite, وقول الوجه الثاني من دلائل الإجماع أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد من الصحابة إلى آخره. المقصود أن الدليل على ما نحن بصدده من عدم تمكين الكفار من إظهار شعائرهم في بلاد الإسلام فعل عمر رضي الله عنه وما فعله أفراد الصحابة الذين ليس لهم ولاية وإنما فعلوا ذلك بموجب ما فهموه من دينهم الذي يأمرهم بمخالفة الكفار واشتهر هذا عنهم ولم ينكر لذلك فهو نوع من أنواع الإجماع. Donc le cheikh il dit que ça c'est le deuxième aspect par rapport à l'ijma, c'est qu'est-ce qui vient confirmer la règle, hein, que plusieurs d'entre les sahaba ont confirmé et que personne d'entre eux n'a contredit, et ça c'est une preuve du fait qu'il n'est pas permis de permettre aux non-musulmans dans les pays de l'islam de célébrer leurs fêtes ouvertement dans les pays musulmans. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on a vu dans les exemples de qu'est-ce que Omar ibn al-Khattab a interdit parmi les conditions qu'il avait établies contre eux, et ce que les sahaba ont fait alors qu'ils n'avaient aucune responsabilité dans le gouvernement. C'est-à-dire certains des sahaba qui n'avaient pas nécessairement une autorité ou un poste officiel, et malgré tout, il considérait l'interdiction de ces choses-là. Et il condamnait ce genre de choses. Hein, et par rapport à ce qu'ils avaient compris de leur religion, et ils ordonnaient de contredire les koufars. Et ça, c'est quelque chose qui a été connu de leur part, et c'était célèbre, hein, leur position était célèbre à ce sujet-là, et il n'y a personne d'entre les sahaba qui a condamné ça. Hein, donc, ça, c'est considéré comme une forme de consensus. Lorsqu'un sahabi dit quelque chose, ou plusieurs sahaba disent une chose, et il n'y a personne d'autre parmi eux qui condamne cela, ça veut dire que c'est un genre de consensus dans ce cas-là. Parce que si ce n'était pas correct, c'était le devoir de l'un d'entre eux de le mentionner et de le dire. Donc si personne n'a jamais condamné ça, ça veut dire que c'était acceptable et qu'ils ont considéré que c'était permis. Et donc le cheikh il continue en disant « وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسِ وَهَذِهِ وَهَذَا مِثَالٌ مِنْ فِعْلِ الصَّحَابَةِ وفيه دليل على أن الواجب مخالفة الكفار وعدم إظهار فعلهم ولعل هذه الحادثة حصلت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك أن امرأة من أحمس وهي قبيلة من قبائل العرب يقال لها الأحمس وينسب إليها الأحمسي ودخل عليها أبو بكر وهي صامتة لا تتكلم فقال ما شأنها قال إنها حاجة قال كأنها ظنت أن الحاج لا يتكلم بعد حجه فنهاها رضي الله عنه عن ذلك وقال إن هذا من دين الجاهلية وهم الذين يفعلون ذلك حيث إن الصمت عبادة عندهم فالله لم يأمرنا بالصمت في الحج بل أمرنا بالذكر حيث قال واذكروا الله كثيرا وقال واذكروا الله في أيام معدودات وقال واذكروا اسم الله في أيام معلومات فليس من شعائر الحج الصمت إلا عند أهل الجاهلية. Donc le cheikh il dit qu'il mentionne le fait que Abu Bakr radiallahu anhu est rentré, il a vu une femme parmi les femmes de Ahmas qui ne parlait pas. Et il dit ici, on voit ici l'exemple des sahaba, une preuve par les actions des sahaba qui indique que yani, l'obligation c'est de contredire les kuffars et de ne pas leur laisser yani, montrer leur pratique qui est incorrect ou contraire à l'islam. Et il dit ici que peut-être que cet événement-là s'était produit à l'époque même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que c'est une femme de la tribu de Ahmas, une tribu parmi les tribus des Arabes. Il dit que Abu Bakr radiallahu anhu est rentré et il a trouvé cette femme qui gardait le silence. Elle ne voulait pas parler. Il dit, qu'est-ce qu'elle a cette femme? Il a dit, cette femme, elle a fait le hajj, puis probablement qu'il pensait ou qu'il s'imaginait que la personne qui avait fait le hajj ne devait pas parler. Comme c'était le cas peut-être dans la jahiliya, qu'il devait garder le silence. Hein? Il faisait vœu de silence, comme chez les moines chrétiens parfois, chez les religieuses aussi, ils font vœu de silence, des choses de ce genre. Et Abu Bakr radiallahu anhu lui a interdit de faire ça. Il a dit parce que ça fait partie de la religion des gens de l'ignorance, de la jahiliya, de l'époque pré-islamique, des pratiques des mushrikines qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc c'est eux qui font ce genre de choses-là. Et donc de rester, de garder le silence, pour eux c'est une forme d'adoration. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné de garder le silence dans le hajj. Hein? Au contraire, il nous a ordonné de faire son rappel. Hein, de se rappeler de lui, de se rappeler d'Allah. Le verset 45 dans Sourate Al-Anfal, et souvenez-vous beaucoup d'Allah. Et le verset 203 dans Sourate Al-Baqarah, et souvenez-vous d'Allah dans des jours calculés. Et le verset 28 dans Sourate Al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et souvenez-vous d'Allah dans des jours connus. Donc, il ne fait pas partie des rites du Hajj de garder le silence, excepté pour les gens de la Jahiliya. ثم إنها سألت أبا بكر من أنت فأخبرها فلما عرفته قالت وما بقاؤنا على هذا الأمر يعني على الإسلام قال ما استقامت لكم أئمتكم يعني بذلك الولاة فإذا استقام ولاة الأمور المسلمين على نصرة الإسلام فإن الإسلام يبقى وإذا تخاذل ولاة الأمور عن نصرته فإن الإسلام يضمحل يعني في بعض الأماكن لكن لا يزول بالكلية لأنه سيبقى إلى أن تقوم الساعة وسيظهر الله دينه ويدخل الإسلام كل مكان وهنا يأتي دور ولاة الأمور في الذب عن الإسلام والمسلمين وعمل كل ما من شأنه إعزاز هذا الدين وعدم الغفلة عن كيد الكافرين والحذر من أن تزحف إلينا بدعهم وتخاريفهم. Donc le cheikh il dit le cheikh il dit que ensuite elle a demandé à savoir qui il était. Elle a demandé à Abu Bakr qui es-tu, ainsi de suite. Quand elle a su que c'était lui, elle lui a demandé qu'est-ce qui va faire rester l'islam. Comment l'islam va rester après la jahiliya. Il dit tant que les dirigeants musulmans vont rester accrochés à l'islam et vont défendre l'islam, l'islam va rester droit. Et donc il dit le cheikh que il explique donc que ça veut dire que tant que les dirigeants musulmans vont défendre la religion de l'islam, l'islam va rester. Mais lorsque les dirigeants vont abandonner la défense de l'islam, eh bien, l'islam va disparaître. Le cheikh dit, c'est-à-dire que l'islam va disparaître dans certaines régions, dans certains endroits. Mais l'islam ne va pas disparaître partout en même temps et en entier, complètement. Ça, c'est pas possible. Parce que il y aura toujours un endroit où l'islam va être établi quelque part sur terre. Comme on a mentionné au début du cours, le hadith du groupe victorieux. Il y aura toujours un groupe de la Ummah qui va rester victorieux sur l'islam. Donc même si dans un endroit, les musulmans vont, par exemple, l'islam va disparaître, mais il va rester dans d'autres endroits quand même. L'exemple de ça, par exemple en Espagne. L'islam est resté pendant 800 ans en Espagne. Qu'est-ce qu'on appelle l'Andalousie? Pendant 800 ans, les musulmans ont régné là-bas. Et l'islam a régné dans cette contrée-là de l'Europe. Puis, quand les musulmans se sont affaiblis, et lorsqu'ils se sont divisés, et lorsqu'ils ont suivi les désirs et les passions, ils se sont affaiblis, et les koufars et les mouchriquins chrétiens, catholiques, ont été capables de les faire sortir et de les chasser. D'accord ? Mais n'empêche que dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde, l'islam est resté fort. En même temps que les musulmans étaient en train de perdre en Andalousie, en Espagne, et que l'empire musulman de l'Espagne est tombé, les musulmans de l'empire ottoman, eux, commençaient à conquérir les Balkans et les régions, différentes régions de l'Europe. Donc c'est pour dire que à un endroit l'islam peut être faible, tandis qu'à un autre l'islam devient fort. C'est pas, il y a pas, c'est pas possible que, yani dans toutes les régions en même temps et partout sur la terre que l'islam soit complètement écrasé ou éliminé. C'est pas possible. Ouais, ben c'est un exemple, mais on peut pas dire bon, on peut pas comparer ça avec les situations des musulmans ici en Occident, parce que les musulmans en Occident sont quand même minoritaires. Mais moi je parlais des cas où des exemples où par exemple il y avait des musulmans qui avaient réellement, soit ils étaient majoritaires ou soit qu'ils régnaient, ils avaient le pouvoir. Donc ça c'est un exemple. D'accord. Les musulmans peuvent parfois avoir des défaites ou avoir des faiblesses. Mais comme le cheikh il dit, l'islam ne peut pas disparaître en entier parce qu'il dit que l'islam va rester jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier, jusqu'à la fin des temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala va donner la victoire à sa religion, hein, et l'islam va rentrer partout. L'islam va rentrer partout. Il dit, et donc ici on voit le rôle des dirigeants musulmans dans la défense et le support de l'islam et des musulmans. Donc les dirigeants musulmans ont une grande responsabilité en ce qui concerne ce genre de sujet, hein, de ce genre de choses. Et il dit وَعَمَلُ كُلُّ مَا مِنْ شَأْنِهِ إِعْزَازُ هَذَا الدِّينِ. C'est-à-dire que tous ceux qui ont un rôle dans le fait de renforcer cette religion et de ne pas prendre à la légère les ruses des mécréants et de mettre en garde, hein, qu'ils nous attaquent, hein, ou qu'on soit attaqué par leurs innovations et par leurs fausses croyances et autres. Donc ça c'est fondamental et c'est une chose que les dirigeants des pays musulmans à travers l'histoire ont toujours respecté. Hein, à travers l'histoire, les dirigeants musulmans ont toujours défendu la foi et la aqida et le tawhid et l'islam. Et c'est possible que parfois même certains de ces dirigeants-là ne sont pas nécessairement des bons musulmans. Mais malgré tout, ils aiment l'islam et ils défendent l'islam avec tout ce qu'ils possèdent et tout ce qu'ils peuvent. Donc, ça c'est l'exemple que tu vois par exemple à travers l'histoire. Tu vois que dans certaines époques, à certains endroits, certains dirigeants étaient plus pieux que d'autres, mais ceux qui étaient moins religieux ou moins pieux, ça ne veut pas dire qu'ils ne défendaient pas non plus eux aussi l'islam, hein. Et à notre époque, il y a des gens, par exemple, dernièrement j'ai entendu beaucoup de commentaires de la part de certains hypocrites ou de la part de certains qui ont une foi faible ou bien qui font partie des groupes des gens de bid'ah ou qui font partie des hérétiques ou bien des munafiqines, des hypocrites, qui voient que par exemple dans certains pays musulmans il y a des troubles ou il y a des problèmes ou il y a des difficultés, comme par exemple actuellement la situation par exemple en Arabie Saoudite. Et il y en a qui se réjouissent des problèmes, hein, qui se produisent là-bas ou des situations qui se produisent là-bas qui sont difficiles. Et donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils rêvent de voir tomber, hein, cet état-là et ce pays-là. Et pourquoi ils rêvent de ça? Parce que yani, la plupart d'entre ces gens-là, c'est soit qu'ils ont des croyances déviées, hein, par exemple les Khawarij, hein, qui sont sur la voie du takfir et qui veulent déclarer mécréants tous les pays musulmans, hein. Et donc ils commencent par le pays le plus religieux, le plus pratiquant, hein, celui qui s'accroche le plus à la charia, ils commencent par l'Arabie Saoudite. Et si l'Arabie Saoudite s'ils déclarent l'Arabie Saoudite mécréante, alors les autres on n'a même pas besoin de mentionner. Mais attends, juste pour me laisser aller jusqu'au bout de mon point, c'est que ça c'est un exemple. Et en même temps, c'est comme s'ils voient par exemple des problèmes là-bas, donc ils sont contents, ils se réjouissent, ils disent ah, ce pays-là va tomber. Et là ils disent, hein, qu'est-ce que vous allez faire vous les salafis si l'Arabie Saoudite tombe? Hein? Là, vous aurez plus de support ou je sais pas quoi. Ils s'imaginent que si l'Arabie Saoudite tombe, eh bien, la salafia va disparaître ou la salafia va tomber. Mais la salafia, c'est l'islam. Donc, avant que l'Arabie Saoudite existe, la salafia existait. Parce que la salafia existe depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et depuis l'époque des sahaba, et elle a existé à travers les siècles. Parce que la salafia, ça veut dire de s'accrocher à l'islam, s'accrocher au Coran et à la sunna. selon la compréhension des sahaba. Et ça, donc, ça veut dire que c'est l'islam pur. L'islam, hein, comme il a été ramené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux sahaba. Et donc, c'est de suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des premiers musulmans, de nos prédécesseurs pieux, les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis. Cette compréhension de l'islam, elle n'est pas reliée à un état parmi les états. Actuellement, l'Arabie Saoudite, c'est le pays qui la supporte et qui la défend, la salafia. Et elle a ses erreurs, et elle a ses fautes, et elle a ses manquements, et elle a ses faiblesses, comme tous les autres pays et comme toutes les autres, comme tous les êtres humains. Elle n'est pas parfaite. Mais en même temps, ceux qui se réjouissent des problèmes de ce pays-là et qui sont heureux de les voir en difficulté, ça c'est les signes des hypocrites. C'est qui est-ce qui se réjouit de la faiblesse des musulmans et de la faiblesse des gens de la sunna? C'est les munafiqins, c'est les gens de bid'a, c'est les gens de déviation, c'est les kuffars. Hein, les kuffars sont contents là, tu les vois à chaque jour, ils écrivent dans leur journaux, dans leur truc, ils parlent de l'Arabie Saoudite, ils disent « Ah, regardez, hein, maintenant il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe. » Et ils se réjouissent de ça. Alhamdulillah, nous on demande à Allah que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce gouvernement et cet état de l'Arabie Saoudite, que Allah subhanahu wa ta'ala les garde sous la droiture, que Allah subhanahu wa ta'ala les raffermisse, que Allah subhanahu wa ta'ala les garde sur la sunna et fasse qu'ils soient des défenseurs du Coran et de la sunna et de l'islam et de la compréhension de nos pieux prédécesseurs vis-à-vis de l'islam, et qu'ils continuent à honorer et à respecter les ulama comme ils le font et comme ils l'ont toujours fait. Et pour l'Arabie Saoudite, on fait ce dua et on le fait pour tous les autres pays musulmans sur terre aussi, pour que tous les pays musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala guide les dirigeants de ces différents pays musulmans là, et pour qu'ils soient tous inshallah des défenseurs de l'islam et de sa religion. Ça c'est qu'est-ce qu'on souhaite pour le gouvernement de l'Arabie Saoudite et pour tous les gouvernements musulmans sur terre dans les différents pays de l'islam, que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Asie et dans les différentes régions du monde. On souhaite que Allah subhanahu wa ta'ala guide nos dirigeants musulmans et qu'il les oriente sur la droiture et sur la foi et sur la piété et sur la sunna, et qu'il fasse de ces dirigeants-là des gens qui défendent la vérité et qui combattent le faux et qui combattent les innovations et tout ce qui oppose la vérité de l'islam et la vérité et qu'est-ce qui est enseigné par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est notre espoir et notre souhait. Mais de voir de la part de certains égarés aujourd'hui, certains ignorants, des critiques et des moqueries et des réjouissances lorsqu'ils voient des problèmes quelque part dans un pays musulman, ça c'est franchement quelque chose qui est désolant. Nasallallahu al-afiya. Mais ça a toujours été. Tu voulais dire quelque chose? Oui, celui qui décrit les dirigeants musulmans en disant que ce sont des gens qui sont comme Pharaon et Haman, c'est clair que celui qui dit ça, il suit la voie des Khawarij. Parce que Pharaon, c'était un parmi les Tawarit du monde, une personne qui a dit « Ana Rabbukum al-A'la, je suis votre Seigneur le Très-Haut ». Comment tu peux dire ça des dirigeants musulmans? Donc si tu dis ça des dirigeants musulmans, qu'ils sont comme Pharaon, alors en réalité, yani, tu es en train de les déclarer des koufars. Donc ça veut dire pour lui, il considère que tous les dirigeants, sans exception, qu'ils sont tous mécréants. Ça c'est exactement la voie des Khawarij. Ça, il n'y a pas de doute que ça c'est la croyance de la secte des Khawarij. Il y a des gens qui croient en ça et qui... qui vivent avec cette aqida, Allah musta'an, une aqida qui est complètement déviée, hein, ils se réjouissent de ça. Donc, yani, ça c'est des épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait toujours en sorte qu'il y ait des épreuves dans la Ummah, pour justement faire sortir la réalité des hypocrites, et pour que les hypocrites montrent leur vrai visage. lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des fitans, lorsqu'il y a des problèmes, c'est là que on voit apparaître le vrai visage des gens. C'est là qu'on voit apparaître l'hypocrisie des munafiqin, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah nous en préserve. Donc le cheikh il dit ensuite فالمقصود أن الحج في نفسه عبادة وهو من دين الإسلام لكن الصمت فيه زيادة فيه بدعة محدثة وهذا ما يسمى بالبدعة الإضافية فالبدعة على قسمين إما بدعة أصلية وهي إحداث عبادة لم يأذن الله بها ولا رسوله وإما أن تكون العبادة أصلها مشروع لكن يزاد عليها شيء ليس منها وهي البدعة الإضافية مثل الصمت في الحج فإن هذه بدعة إضافية فأبو بكر رضي الله عنه أنكر على هذه المرأة فعلها فلما سألته وما بقاء هذا الأمر يعني هذا الدين متى يستمر قال ما استقامت أئمتكم فمعناه أن بقاء هذا الدين مرهون بمحافظة أئمة الإسلام عليه يعني ولاة الأمور والعلماء وذلك بالمحافظة عليه والدفاع عنه ونشره وتيسير الدعاة إلى الأقطار أما إذا أهمل ونسي فإنه يزول عن بعض البلاد التي لم تتمسك به ولم يقم ولاة أمورها بنصرته فيها. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qui est important de comprendre ici, le but de qu'est-ce qu'on a expliqué, c'est de comprendre que le hajj en soi c'est une adoration. Le hajj, hein, le pèlerinage, ça c'est une adoration, ça fait partie de l'islam. Toutefois, le fait de dire que tu veux rester silencieux dans le hajj, ça c'est une bid'a innovée. Et ça fait partie de la bid'a qu'on appelle al-bid'atul idafiyya. Parce que les ulama ont divisé la bid'a en deux catégories. Bid'a asliya et bid'a idafiyya. Al-bid'atul asliya c'est quoi? Al-asliya, ça vient du mot, le mot asliya vient du mot asl. Asl qui veut dire la base, l'origine, hein, le fondement. Donc, quand tu dis une bid'a et une bid'a asliya, ça veut dire qu'à la base, elle est innovée. C'est-à-dire, elle n'existe même pas du tout dans l'islam. Allah ne l'a pas ordonné, ni son messager. Et, à la base, elle n'a pas été légiférée. Et il dit, si une adoration, elle est à la base légiférée, sauf que tu rajoutes quelque chose dedans, qui est différent, qui est nouveau, là, ça devient une bid'a idafiyya. Hein? Une bid'a qui est, à laquelle tu as rajouté, c'est quelque chose qui est, une adoration qui est légiférée, mais à laquelle tu rajoutes quelque chose qui n'est pas légiféré. L'exemple de ça, c'est le hajj. Il dit, le hajj, ça c'est pas une bid'a, c'est une ibad, c'est une adoration qui est légiférée. Mais tu rajoutes dedans le fait de garder le silence. Et tu dis, que le fait de garder le silence, c'est quelque chose qui est louable, ou qui est bien, qui est recommandé dans le hajj. Alors, ça veut dire que tu as innové dans le hajj. Maintenant, tu as fait une bid'a dans le hajj, et on appelle ça une bid'a idafiyya, parce que tu rajoutes à une adoration qui est légiférée, quelque chose qui n'est pas légiféré. D'accord? C'est comme, par exemple, beaucoup de gens qui disent, mais pourquoi tu critiques les soufis? Qu'est-ce qu'ils font d'autre que le dhikr? Le dhikr, c'est légiféré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à faire le dhikr, de faire le rappel d'Allah, et à mentionner le nom d'Allah, et à glorifier Allah, hein, à tout instant, en tout moment. Donc pourquoi tu blâmes les soufis? Oui, c'est vrai, le dhikr, c'est une des plus grandes formes d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit même à propos de la salat, aqimis salat ali dhikri, établis la salat pour mon rappel. Donc même la salat c'est un dhikr. Hein? Le Coran est un dhikr. Mais quand tu le fais d'une manière qui n'a pas été légiférée, c'est-à-dire tu vas rajouter quelque chose dedans, un nombre spécifique qui n'a pas été mentionné dans la sunna, ou bien certaines paroles qui sont innovées, qui ne font pas partie de l'islam et qui sont en contradiction avec l'islam, tu rajoutes ça dans ton dhikr, ou bien un lieu, tu dis il faut faire le dhikr à tel endroit, un endroit spécifique, et tu dis cet endroit-là, il a un mérite particulier, sans que ce soit prouvé par le Coran et la Sunna. Ou bien, tu dis, tu fais un dhikr dans un certain moment. Tu dis de faire le dhikr à ce moment précis, il a un mérite particulier, sans que ce soit prouvé par le Coran et la Sunna. Ou bien tu dis de faire le dhikr dans telle position, il a une valeur ou un mérite particulier, sans que ce soit prouvé par le Coran et la Sunna. Ou bien tu rajoutes un mouvement, tu dis il faut faire tel mouvement pendant que tu fais le dhikr, hein, comme chez les soufis par exemple, ils vont dire il faut se balancer par en avant, par en arrière, ou bien il faut tourner en rond pendant que tu fais le dhikr, ou bien il faut sauter sur place pendant que tu fais le dhikr, ou bien il faut balancer la tête, ou bien des choses de ce genre. Ou bien ils vont dire qu'il faut commencer à faire, il faut utiliser des instruments, un tambour ou quelque chose pendant que tu fais le dhikr. Ou bien ils vont dire qu'il faut chanter, hein, ou danser, ou mettre de la musique, ou des choses de ce genre. J'ai vu des soufis qui faisaient le dhikr avec le violon. Ils disaient que ça c'est du dhikr. Hein? Donc, on voit que ça finit plus. Ça finit plus. Quand tu commences à dire des choses comme ça, de faire des choses comme ça, c'est pas légiféré. Donc tout ça c'est des innovations, et on appelle ça la bid'a idhafiyya, parce que c'est des choses qui, le dhikr à la base il fait partie de l'islam, c'est légiféré, mais les choses que tu y rajoutes sont des innovations, et donc dans ce cas là ça devient une bid'a à cause de ça, et on l'appelle donc bid'a idhafiyya. Et il donne l'exemple aussi de l'exemple de cette femme qui voulait garder le silence dans le hajj, hein, après le hajj. Donc il dit ça c'est une bid'a idhafiyya. Et Abu Bakr a condamné ce que cette femme-là faisait. Et il lui a posé la question. Et la femme lui a posé la question, jusqu'à quand l'islam va continuer, hein? Jusqu'à quand l'islam va continuer, va rester? Et Abu Bakr radiallahu anhu a dit, tant que vos dirigeants vont rester droits, l'islam va continuer. Il dit ça signifie que cette religion-là, elle est le gage, hein, de la préservation des dirigeants de l'islam, des dirigeants musulmans. C'est eux qui ont la responsabilité de préserver l'islam et de garder l'islam. Et quand on parle des dirigeants musulmans, on parle des dirigeants politiques et des savants, des savants religieux, des savants de la religion. C'est eux qui sont les responsables de la Ummah. Et c'est eux qui ont comme responsabilité de préserver cette religion et de la défendre, et de la propager, et d'envoyer les gens à travers le monde pour appeler les gens à la foi et à l'islam. Et il dit que si par contre les gens négligent cette responsabilité-là, ou l'oublient, alors elle peut disparaître dans certaines régions et dans certains pays, hein, lorsque les gens ne s'y sont pas accrochés, et lorsque les dirigeants de ces différentes régions-là n'ont pas fait les choses nécessaires pour défendre cette religion. Le résultat, c'est que dans ce cas-là, elle disparaît de ces régions. Il dit « Wa min al-ma'loumi annahu idha salaha » صلح ولاة الأمور صلح العباد وإذا فسدوا فإن ضررهم وفسادهم يتعدى إلى غيرهم ولذلك مسؤوليتهم أعظم أمام الله سبحانه وتعالى أما أفراد الناس فليس لهم سلطة ولو كان عندهم غيره لكن ليس لهم سلطة فالدين لا بد له من سلطة لتنفيذه قال الله تعالى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فلا بد من حديد وكتاب. الكتاب يبين الحق، والحديد يلزم بالحق، وذلك بالجهاد وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc le cheikh il dit, et on sait très bien que lorsque les dirigeants et les responsables des musulmans, les ulama et les dirigeants sont bons, en général les gens vont être bons, la population en général vont être bons aussi s'ils suivent leurs dirigeants dans le bien. Toutefois, s'ils sont corrompus, eh bien le tort et leur corruption risquent d'être transmis aux autres et de se propager chez les autres. Il dit c'est pour ça que les dirigeants, ils ont une certaine responsabilité qui est plus grande que les autres devant Allah. Leur responsabilité est plus grande devant Allah. Tandis que le commun des musulmans, les gens ordinaires, ils n'ont pas d'autorité, ils n'ont pas de pouvoir. Ils ont peut-être cette jalousie, hein, cette honneur jalouse de vouloir défendre l'islam, mais il leur manque l'autorité. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir et l'autorité. Il dit que la religion, elle a besoin de cette autorité-là pour être exécutée, pour pouvoir s'exécuter. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 25, dans surat al-Hadid, hein, le fer. Allah dit, nous avons fait descendre avec eux, c'est-à-dire avec les prophètes, le livre et la balance pour établir la justice parmi les hommes. Et ensuite il dit, et nous avons fait descendre le fer. Il y a dedans une force et un bienfait pour les hommes. Donc dans le fer, par le fer, il y a du bien, il y a une force et il y a un bienfait pour les hommes. Donc le cheikh il dit, donc il faut les deux. Il faut qu'il y ait le fer, il faut qu'il y ait le livre. Le livre pour clarifier la vérité et le fer pour faire en sorte que cette vérité-là soit imposée et appliquée. Et c'est la même chose, il dit, et cela c'est-à-dire par le djihad, c'est-à-dire par la lutte et par le combat. Hein? Donc les koufars ils disent, des fois j'entends ça, ils disent le djihad c'est pas la guerre sainte, ou certains disent non il n'y a pas de guerre sainte dans l'islam, et je comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par il n'y a pas de guerre sainte, parce que en réalité quand tu dis le djihad ça peut vouloir dire plusieurs choses. On l'a expliqué déjà dans d'autres contextes que le djihad c'est pas seulement le combat. Le djihad, c'est aussi le djihad par le cœur, le djihad par la langue, le djihad par la main. On a expliqué ces trois degrés de djihad. On a expliqué aussi le djihad contre son âme, contre soi-même, le djihad contre le shaitan, le djihad contre les munafiqines, le djihad contre les mubtadi'a, le djihad contre les kuffars et les mushrikines, les différentes catégories. On a expliqué ça dans d'autres cours. On a expliqué également donc ça c'est différents degrés de djihad. Et wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bien entendu le djihad il a des règles et des conditions, ça on en a parlé aussi. Et on a besoin du fer pour ça. Et pour établir les peines, pour établir les punitions, et pour ordonner le bien et interdire le mal. Ça, c'est les responsabilités du dirigeant musulman. Le djihad, c'est pas toi ou moi ou lui qui va le faire. Dans le sens qu'il va le faire, qu'il va le décider. Les décisions pour les questions de paix ou de guerre, ça concerne uniquement les dirigeants, les responsables de la Ummah, les responsables des pays, pas les individus parmi les musulmans. C'est pas moi ou toi ou un imam d'une mosquée ou un imam ou un cheikh qui décide on fait le djihad ou on fait pas le djihad. C'est les dirigeants musulmans qui décident. Les chefs, c'est eux qui dirigent l'armée et c'est eux qui forment des armées pour qu'il y ait dans les pays une défense, une protection, et qu'ils puissent également protéger et attaquer lorsque c'est nécessaire. Et il faut que ces armées-là soient entretenues, il faut que les soldats dans cette armée soient équipés, il faut qu'ils soient entraînés aussi. Et il y a des équipements, il y a des appareils, il faut qu'ils sachent comment les utiliser. Il faut qu'ils sachent comment utiliser ces choses-là, comme cela existe chez les non-musulmans aussi. Ces choses-là existent chez les non-musulmans, ça a toujours existé chez les non-musulmans et chez les musulmans aussi. La guerre, c'est une réalité qui a toujours existé à travers l'histoire de l'humanité. Hein? Sauf que nous, en tant que musulmans, étant donné que nous sommes des musulmans, nous avons des règles particulières, des règles de morale et des règles, des principes à respecter, même dans la guerre. Et ces règles-là à respecter, elles nous sont dictées par notre religion. Hein? Donc ça, c'est la différence. Donc, en ce qui concerne l'établissement des peines religieuses, des peines qui sont mentionnées dans la révélation, ces peines-là, c'est pas toi ou moi qui peuvent les appliquer. Ces peines-là, c'est seulement le dirigeant musulman dans le pays musulman qui a le droit de les faire appliquer. C'est tout. Si quelqu'un fait un crime, c'est pas moi la police. Je peux pas prendre la personne, l'attraper, je l'enferme chez moi, non. C'est le dirigeant qui fait ça. C'est lui qui désigne une police, qui désigne une autorité qui va faire ça et un juge, c'est lui qui le place pour juger dans le tribunal, pour juger selon les principes de l'islam, qu'est-ce qu'il a fait, et déterminer s'il est coupable ou non, et de le punir s'il mérite d'être puni, ou de le libérer s'il mérite d'être libéré, et de donner le droit à qui le droit revient. Mais les dirigeants, c'est ceux qui sont au pouvoir dans les pays musulmans. C'est eux les dirigeants. Et le cheikh, il dit, et d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est la même chose. Il dit, وَلَا بُدَّ مِنَ الْعَمَلِ بِالْكِتَابِ وَالسُنَّةِ فَأَهْلُ الْكِتَابِ هَلَكُوا مَا عِنْدَهُمْ مِنَ التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا لَمَّا لَمْ يَعْمَلُوا بِهِمَا في وقتهما قبل أن تنسخ وكذلك القرآن إذا بقي على الرفوف ولم يعمل به فإنه بذلك لا ينتشر ولا يقام الإسلام ولا ينتشر فليس المراد بقاء الكتب وإنما المراد بقاء العلماء والعمل والتنفيذ وهذا إنما يملكه ولاة الأمور والذين أعطاهم الله السلطة فمسؤوليتهم أعظم من مسؤولية غيرهم ولكن على البقية أن يتعاونوا معهم وأن ينبهوهم وأن يدلوهم على الخير حتى يكونوا يدا واحدة. Donc le cheikh il dit, il faut donc agir selon le Coran et la Sunna. Les gens du livre, les juifs et les chrétiens, ils ont péri avec ce qu'ils ont comme livre, la Torah et l'Injil, la Torah et l'Évangile. Et ils n'ont pas profité en rien de ce qu'il y a dans leurs livres à leur époque, avant que ces livres-là soient abrogés par le Coran. Ils ne les ont pas mis en application. Il dit, c'est la même chose pour le Coran si on le laisse sur les étagères et qu'on ne le met pas en application. Alors ça veut dire que le Coran, l'islam, il ne va pas se propager. Et on va pas l'appliquer. Hein? Pourquoi? Parce que on le lit, puis on le remet dans l'étagère, on l'applique pas dans la vie réellement. On l'applique pas sur le plan politique, on l'applique pas sur le plan économique, on l'applique pas sur le plan social. On dit non, ça c'est la laïcité maintenant. Hein? On laisse ça, ces dimensions-là, ça c'est des choses qui ont pas rapport avec l'islam. L'islam c'est juste prier, jeûner, tu fais la salat, tu fais le jeûne, c'est tout. Après, c'est fini. La politique, l'économie, la société, ça, ça touche pas à la religion, c'est séparé. Ça, c'est la mentalité des koufars, des juifs et des chrétiens et des athées, et c'est eux qui ont imposé cette mentalité-là. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc nous, on a pas à agir comme ça. On doit appliquer la religion. Il dit que quand on veut dire, il dit l'important c'est pas que les livres restent. L'important c'est que les ulama soient présents et que on mette la religion en application et qu'on la mette en exécution. Et ça, personne peut le faire excepté les responsables musulmans dans les pays musulmans. C'est à eux que Allah a donné l'autorité. Et donc, c'est eux qui ont la plus grande responsabilité par rapport aux autres de le faire. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est-à-dire que les dirigeants musulmans, dans les pays musulmans, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur autorité et est-ce qu'ils n'ont, pourquoi ils n'ont pas mis en application la révélation d'Allah dans leur pays, hein, s'ils ne l'ont pas fait. Et Allah va leur demander des comptes. Pour ça. Et donc, le cheikh, il dit, et les autres musulmans qui ne sont pas des dirigeants ou qui n'ont pas la position de dirigeant, comme nous, comme toi et moi et tous les autres musulmans du commun, eh bien, nous, notre responsabilité, c'est de collaborer avec eux dans le bien et de leur indiquer ce qui est bon. Et de leur montrer le bien pour que nous soyons comme une seule main, unie. Et on travaille ensemble, hein, pour faire avancer la Ummah, pour faire avancer l'islam. Il dit, wa qawluhu wa ta'qibu al-hukm bil-wasf dalilun ala anna al-wasf illatun, yani anna qawl Abi Bakr inna hadha min din al-jahiliyya, kawnuhu من دس الجاهلية علة للحكم فهذا دليل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم فتكون إطالة الصمت تعبدا من دين الجاهلية فيجب تركها لأننا نهينا عن التشبه بأهل الجاهلية. Donc comme j'ai expliqué, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il commente le hadith en disant que le simple fait que Abu Bakr radiallahu anhu ait mentionné que cette attitude ou cette action, le fait de ne pas parler, de garder le silence, c'est une parmi les actes de la jahiliya, que ça fait partie de la religion de la jahiliya, eh bien c'est suffisant pour confirmer le verdict d'interdiction de cette pratique-là. C'est-à-dire que le fait que tu dises de quelque chose que ça fait partie de la jahiliya, c'est suffisant pour expliquer le verdict que c'est interdit. Hein? Donc si je te dis par exemple que de garder le silence de façon absolue et de ne pas parler, que ça c'est quelque chose qui fait partie de la jahiliya, si je te dis ça fait partie de la jahiliya, t'as pas besoin de me demander pourquoi c'est interdit. Puisque c'est la raison pourquoi c'est interdit, c'est parce que ça fait partie de la religion de la jahiliya. Le fait que quelque chose fait partie de la jahiliya, c'est suffisant pour l'interdire. Hein, c'est suffisant pour prouver que c'est interdit. Ok, donc ça c'est ce qui vient compléter le cours d'aujourd'hui. À ce sujet-là, on va s'arrêter ici, puis on va continuer donc la semaine prochaine. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc maintenant on va faire le sirah nabawiyya. Inshallah on va commencer le dars pour la sirah nabawiyya.